Bonjour à tous. Faut-il vraiment traduire les tweets et les discours du président américain dans la langue de Trump qui paraît aux éditions Les Arènes? Bérangère Viennot analyse la syntaxe déroutante du président américain et à travers ses mots montre un rapport nouveau à la réalité et à l'état de la démocratie américaine. La traductrice de presse nous rejoindra à partir de 12h55. Mais d'abord, clochard céleste du cinéma français, des films de Léos Carax, Les Amants du Pont Neuf à Holly Motors, le comédien Denis Lavant est aujourd'hui notre invité pour son rôle de clown triste, mais clown philosophe dans Le Sourire au pied de l'échelle d'Henri Miller, à voir au Théâtre de l'Atelier jusqu'au 17 février. Un seul en scène d'après un texte donc du Britannique, mis en scène par Bénédicte Nécaille. Denis Lavant est à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Ah ! Ça n'est que moi, hein ? Auguste ! Auguste ! Connais pas ! Excusez-moi. Il faut que je file. Hé, hey, Auguste ! Hé, hey, reviens ! Pourquoi te sauves-tu comme ça ?
Mais oui, restez, maintenant qu'on vous tient. On l'avait quitté au Théâtre de l'Athénée où il interprétait Cap-aux-Pierres de Beckett. On le retrouve en clown Auguste sur la scène de l'Atelier, toujours seul avec son public. Bonjour Denis Lavant.
Bonjour.
Et Henri Miller est américain.
Exactement.
Ce public,
vous préciser.
Où souhaitez-vous l'emmener? Sur une piste aux étoiles, sur une lune éclairée? À quel voyage sommes-nous invités?
Oh yeah, yeah. Je dirais que c'est un peu comme d'hab. C'est un peu, comme d'habitude, c'est un peu un voyage au cœur de l'humain, quoi, de la psyché humaine. Et que ça soit à travers, parce que vous citiez Cap-aux-Pierres, qui est aussi une sorte de voyage expérimental, d'introspection, d'exploration des recoins de l'âme humaine. C'est ce que fait généralement la mission des écrivains. Et à travers le texte d'Henri Miller, c'est bien ça. Même si c'est une figure de clown, ça visite la psyché de l'artiste et puis du personnage social aussi, de l'être humain, comment il se débat avec son identité, son rapport aux autres. Voilà, effectivement, il s'agit d'un clown. Donc c'est quelqu'un qui a une trajectoire d'abord poétique, mais qui doit se sacrifier en fait pour les autres. C'est-à-dire qu'il est comme s'il se sentait investi d'une mission par rapport, comme le poète, par rapport à l'humanité, pour tendre une sorte de miroir à la société de son époque. Mais c'est un clown qui en a marre de faire rire, d'être dans la dérision, qui voudrait partager autre chose, sublimer un peu son action, son jeu, et partager de la joie, tout simplement. Or, c'est pas possible parce que c'est un clown.
Or, ce clown-là, ce clown Auguste que vous incarnez, il a tous les attributs du clown. Il a le maquillage blanc, il a le nez rouge, même si la couleur fuit et s'échappe un peu par moments. Il a cette perruque de crâne chauve avec ses cheveux hirsutes, ses gants blancs qu'il enfile au fil de la pièce. Mais il y a mille sortes de clowns. Qui est Auguste, au fond, pour vous? Quel clown interprétez-vous, vous, en étant Auguste, Denis Lavant?
Moi, je dirais que c'est un clown qui est directement lié à son auteur, à Henri Miller, qui se pose des questions. Qui est américain, comme on l'a dit tout à l'heure, comme Trump, d'ailleurs. Et donc, c'est une figure, une image du clown qui participe à un récit philosophique de quête existentielle. Donc il est directement lié à la figure d'Henri Miller. Mais d'autre part, Henri Miller a beaucoup apprécié le Cirque Medrano. Il a été voir les clowns. C'est un fan, c'est un inconditionnel de la piste. Et donc il en parle très bien. Il parle très bien de en fait, ce qui différencie pour moi fondamentalement le clown du comédien, c'est que le clown, il s'est forgé une identité qu'il cultive toute sa vie. Et qu'il s'apprête, il met un masque pour paraître sur la piste. Alors que le comédien, il se met au service de différentes entités, de différents auteurs, de différents réalisateurs. Mais finalement, il garde un petit peu ses il garde son visage. C'est-à-dire, moi, pour ne parler que de moi, on me reconnaît dans la rue, souvent, de temps en temps, de temps à autre. Ça dépend de la fréquence de mes apparitions télévisuelles. Et tandis que le clown, une fois qu'il enlève son maquillage, il est personne. Il est anonyme. Et donc, des clowns sont interchangeables. Si on prend le maquillage d'un autre clown, on va pouvoir se substituer à ce clown. C'est ce qui se passe dans la pièce, quoi. Mmh. Aussi, avec Antoine.
Il le dit d'ailleurs, le vrai Auguste, lui, personne ne le connaissait. Pour cela, il y a aussi besoin de changer de peau. Ce qu'il fait, lui, en remplaçant son camarade Antoine, qui est malade, en retrouvant aussi l'anonymat, c'est presque une métaphore de l'acteur.
Oui, sauf que c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'acteur ne peut pas se débarrasser de son visage. C'est-à-dire, moi, j'ai souvent rêvé de pouvoir, comme à la manière de Romain Gary, de pouvoir jouer sous un pseudo. Mais c'est impossible. À moi, effectivement, de devenir clown. Ce que j'ai pas encore complètement réussi à faire, mais j'y tends. Mais là, le visage et le physique
Vous redressez vos cheveux, vous les
dire. Oui, parce que, en fait, j'ai presque réussi à me forger une tête de clown avec le temps. Mais bon, encore un peu de chemin.
C'était quand même, pour vous, Denis Lavant, la dernière fois que vous vous êtes dit ça, comme Auguste, ce soir, je peux être moi-même en étant toi. Jamais vous vous êtes, au cinéma, au théâtre, adressé à l'un des rôles que vous interprétiez, en vous disant, j'ai réussi à disparaître derrière un rôle.
C'est-à-dire, c'est ce que je m'efforce de faire tous les soirs. Je sais que je ne disparaîtrai jamais, c'est toujours une partie de moi qui apparaît, mais je m'efforce de me déplacer. Je dis pas, en fait, c'est plutôt, chaque fois que je rentre en scène, j'ai tendance plutôt à essayer d'éclater éclipser Denis Lavant, si vous voulez. Et j'ai une petite ritournelle imbécile qui me prend souvent dans les coulisses quand je me retrouve tout seul, souvent pour des solos, je dis « ta gueule, Lavant ». Et place à... J'essaie d'éteindre ce remuement personnel et de laisser place une vacuité pour accueillir un autre personnage. Mais je ne suis pas totalement dupe, je sais que c'est encore fait de mes possibilités, de mes sensations, de mon remuement. Mais je le canalise tout ça vers une figure qui n'est pas moi, ce qui me donne l'excuse de pouvoir paraître aussi.
Mais il n'y a pas un de vos rôles de Shakespeare à Molière qui vous ait permis d'être plus vous-même qu'un autre?
Pour moi, mon rôle idéal quand même, je vais vous le dire, et qui se rapproche un peu du burlesque et du clown, c'est Monsieur Merde, qui a été inventé par Léos Carax, hein, qui paraît dans Tokyo, et puis dans Holy Motors, hein, et qui fait « Oh oui, oh oui, là il propose ton tête !»
Aïe.
Voilà, non, c'est le salut de Monsieur Merde.
Et du coup, c'est le cinéma qui vous aura permis peut-être de vous approcher le plus de vous-même. On en revient à cette pièce, Le sourire au pied de l'échelle, qui se joue actuellement au Théâtre de l'Atelier, avant de tourner jusqu'au 17 février. C'est un hommage aussi au monde du cirque, à la magie du spectacle, à sa liberté, que vous célébrez aussi avec quelques notes de Nino Rota pour la Strada de Fellini. C'est important que Fellini fasse une apparition dans la pièce.
Oh oui, parce qu'il m'a inspiré depuis le début, quoi. Je crois que j'ai commencé à vouloir jouer de la trompette grâce à la Strada, ou à cause de la Strada. Et même, je me souviens, il y a quelque chose, parce que il y a je me rends compte que j'ai imprimé du mouvement, autant les mouvements de Chaplin, son tour de son, ses virages sur un pied, comme ça, que j'ai cultivé pas mal quand j'étais enfant, adolescent. Et j'ai toujours adoré la gestuelle de Julieta Massina dans Gelsomina. Quand elle marche comme ça, elle marche avec, de façon dégingandée, avec les bras comme ça qui passent d'un côté de l'autre. Une démarche de clown, mais une démarche très naïve, très pittoresque. J'ai adopté pour moi dans la vie, dans le quotidien en fait.
Je me suis cassé le dos à essayer d'imiter votre salut sur scène, oui. Denis Lavant, et du coup je m'en mêle complètement les pinceaux aujourd'hui. Je fais plein d'erreurs, vous avez l'élégance de ne pas me corriger à chaque fois. Donc déjà j'ai britannisé ce pauvre Henri Miller pour commencer, et ensuite je confonds le théâtre de l'Atelier avec le théâtre de l'œuvre, qui certes sont deux théâtres qui ne sont pas très loin l'un de l'autre, entre le 18e et le 9e arrondissement de Paris. Mais donc je vais redire les choses bien. Le sourire au pied de l'échelle, c'est la pièce dans laquelle vous jouez actuellement, d'Henri Miller, à voir au Théâtre de l'Œuvre sur la mise en scène de Bénédicte Nécaille. Et vous êtes bien Denis Lavant.
Je crois encore, ouais. Bon. Jusqu'ici. Ouais.
Merci d'être avec nous. L'échelle du sourire, de cette pièce du sourire au pied de l'échelle, c'est celle qui mène où ? Qui mène au fil de l'équilibriste, pour vous, Denis Lavant, à la balançoire du trapéziste voltigeur. Mais c'est aussi une fonction symbolique, non, dans cette échelle. On symbolise le désir de s'élever de ce clown
auguste.
Oui. Et mêler ces deux dimensions, pour vous, ça a été un rôle acrobatique ?
Non, pas tellement acrobatique, parce que à part les saluts, si vous voulez, où je manifeste encore un peu de souplesse, j'ai arrêté d'être antipodiste. J'ai passé pas mal de temps à essayer de me mettre sur les mains, vainement, la tête à l'envers. Puis bon, il y a quelques films où j'ai exploité, où Léo Scarax, par exemple, m'a fait faire des sauts périlleux, des flics-flacs. Mais là, j'ai plutôt essayé de canaliser ça, l'idée du clown, à travers des petits instruments de musique, à travers un petit concertina, à travers une petite clarinette, à travers un escargot de mer, comme ça, tous des choses que j'ai collectionnées, en fait, depuis longtemps, parce que j'aime bien cet aspect-là, poétique, cette image poétique du clown qui fait un peu de tout, et surtout qui fait des petits instruments de musique, des choses comme ça qui sont charmants, minutieux, folâtres, et donc j'ai essayé de passer par là, par cette poésie du clown, effectivement, qui est assez acrobatique pour moi, parce que c'est de jongler entre deux langages. Le langage, le verbe, le texte d'Henri Miller, qui est adapté par Yvan Moran, donc il a adapté, parce que c'est un récit, qu'il a adapté à la première personne du singulier, et de passer de ce tissu de texte qui est très très serré, qui est littéraire, en même temps où il y a un flux émotionnel qui traverse ce personnage d'Auguste, à un travail de précision avec des petits instruments de musique. Moi qui ne suis pas, quoi, qui suis pas musicien, je suis un peu dilettante, mais j'adore jouer. Voilà, de faire un peu du son aussi. Et donc c'est un exercice bizarre qui demande de la précision. Parce que j'estime que le travail du clown, même si c'est de se rouler par terre, de tomber, de faire rire, d'être dans la dérision de soi-même, c'est un travail d'une grande précision.
Alors nous, votre petit accordéon nous a fait penser au grand accordéon de Marcel Azola. Ouais. Marcel Azola, dont on a appris la mort lundi, à 91 ans, qui avait accompagné les plus grands de Jacques Brel, bien sûr, évidemment, avec son chauffe Marcel, mais aussi Édith Piaf et Barbara. On l'écoute. Thank you. Marcel Azola, quel virtuose, ouais. Non ? Vous jouez pas comme tant. Ça ? Vous
non.
pourriez vous en approcher ?
Non. Moi, je joue,
il y a l'envie de tendre vers ça ?
En 18 ans, je joue mélodique. J'ai essayé de l'accordéon parce que je trouvais ça très, très sympa. Mon rêve, ça aurait été de jouer de l'accordéon et de chanter par-dessus, à l'image d'un chansonnier de rue que j'avais rencontré à Bruxelles, quand je faisais du théâtre de rue, Jacques Delauteur. Je trouvais ça formidable. Il éructait par-dessus sur l'accordéon. Mais bon, c'est déjà du boulot de jouer de l'accordéon et de chanter par-dessus. Alors,
et vous chantez aussi ?
Ça m'arrive sous ma douche, dans la rue, des fois. Bon, on m'a toujours dit que je chantais faux, donc c'est un domaine que j'ai jamais vraiment abordé, le chant.
Denis Laban est notre invité jusqu'à midi et demi.
France Culture. La Grande Table. Olivia Jesbert.
J'en reviens, Denis Laban, à nos amis les clowns de Bernard Buffet avec ses têtes de clown au dessin de Fernand Léger. Les peintres se sont aussi beaucoup intéressés à cette figure extrêmement visuelle du clown. Et c'est d'ailleurs Léger qui avait passé commande à Miller d'un texte pour accompagner ses dessins. Je crois qu'il y a eu fâcherie, dispute entre les deux, en tout cas sur ce texte. Et Miller,
non, je crois que ça ne convenait pas.
Oui, ça ne convenait pas.
Je crois qu'il trouvait ça trop triste, le texte de Miller, Léger.
Et du coup, Miller a fini par les publier. Le publier seul, ce texte, en 1948, et il a demandé à d'autres artistes, Picasso, Chagall, Paul Klee, notamment, d'illustrer son texte à lui. Écrivain, peintre, Henri Miller notamment, pourquoi s'intéresse-t-il pour vous à cette figure de l'artiste ? Quel miroir le clown, selon eux, nous tend-il ?
C'est vraiment le miroir, comme il en parle magnifiquement en fait, dans le texte. C'est lui qui renvoie à toutes les maladresses. C'est-à-dire, il fait rire parce qu'il surprend l'être humain en flagrant délit de bêtises, de folies, d'excès, d'abus, de tout ça. La clownerie, c'est l'excès humain par excellence, mais qui est montré comme un miroir. Et donc, on dit, c'est pas moi, mais en fait, les gens, ils rient d'eux-mêmes. C'est ça qui est formidable. Et la différence que j'adore dans le clown, la différence pour moi des humoristes, ou des comiques contemporains qui ont tendance à faire rire en se moquant de l'autre, ouvertement, en prenant à partie le public contre quelqu'un d'autre, contre un comportement. Or, le clown, il fait rire en se moquant de lui-même. C'est lui qui prend la charge. Et ça, c'est merveilleux. Quand je vois, c'est ce qui m'a épaté quand j'ai découvert Grock, ce grand clown poétique, musicien, acrobate. C'est-à-dire, il est dans la naïveté et l'autodérision lui-même. C'est lui la bête, quoi. Et ça, c'est génial. C'est une figure irremplaçable.
Et c'est une figure qui est victime de beaucoup de malentendus aussi. On va écouter un extrait de la pièce Le sourire au pied de l'échelle.
Okay. Le vrai Auguste, lui, personne ne le connaissait. Envahi par les souvenirs de milliers de nuits semblables face au miroir, je compris que cette vie à part, cette existence secrète qui était censée sauvegarder mon identité, n'était absolument pas une vie. N'était en fait zéro, pas même l'ombre d'une vie. Je n'avais commencé à vivre que du jour où je m'étais joint à cette troupe. Et cette vie secrète s'était évaporée.
Auguste, il a la particularité de s'interroger sur le sens de sa vie. Il est pris, tiraillé entre des aspirations contradictoires. Votre clown, il ne veut plus simplement faire rire. Ce qu'il veut, lui, c'est apporter du bonheur, un bonheur authentique, profond au spectateur. Qu'est-ce qui différencie pour vous le rire de la joie ? Vous évoquiez le clown, la différence entre le clown et l'humoriste. Mais quand on rit, ça ne veut pas dire qu'on est pour autant heureux, que le bonheur nous a profondément gagné. Comment, quand on est clown, transmettre de la joie plus que du rire ?
C'est deux choses différentes. Je pense que la joie n'a pas forcément besoin de s'exprimer par le rire. Le rire, c'est une sorte de déflagration qui est provoquée par une sorte de surprise. Je me souviens que Roland Dubillard, ce grand poète, qui n'est pas que drôle, en parle magnifiquement dans un petit texte où il dit, en fait, c'est On peut pas se faire rire soi-même. Il faut qu'il y ait un agent extérieur. C'est-à-dire, on peut pas se chatouiller soi-même. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous chatouille, qui vous surprenne. Il y a une sorte d'électrochoc. Et en fait, que le rapport de soi-même à la chatouille, c'est comme si, brusquement, on se regardait dans un miroir et qu'on voyait quelqu'un d'autre. Donc, il y a ce saisissement, cette chose qui est brutale et en même temps qui vous tétanise, qui fait une sorte d'électrochoc dans le cerveau et qui provoque le rire, qui est quelque chose de absolument organique, la joie, et qui est électrique, je dirais même, un truc de neurone, et la joie, c'est quelque chose qui a un autre état, qui est un état transcendant, qui est un état qui est paisible, qui est pas frénétique. Le rire des clowns ou le rire des burlesques, j'ai revu le Chaplin, le cirque l'autre jour, il y a des moments, il provoque un rire de façon impromptue, parce que c'est pas avec une sorte de brutalité comme ça, avec une sorte d'indécence, de comportement brutal, presque punk, et qui vous dérange en fait un petit peu. La joie, c'est autre chose. Là, à un moment donné, dans le texte de Henri Miller, il y a un moment donné où Auguste prétend avoir atteint un état de paisible, presque de joie, c'est quand il décide d'abandonner le clown et de rester dans le cirque, mais de se mettre au service, de faire les tâches les plus humbles. Et là, il atteint quelque chose qui est un peu une sorte de bonheur personnel. Mais après, ce qu'il prétend faire, lui, c'est presque une tâche impossible. C'est Miller, il emploie même le terme de clown de Dieu, comme Nijinsky, qui prétend se marier avec Dieu, quoi, être dans une transcendance totale. Et ça, c'est une prétention qui est souvent, c'est l'hubris, quoi. On peut pas en demander trop, on peut pas en vouloir trop. Et à la fin, il réalise que le seul moyen d'atteindre ça, en fait, c'est de ne pas faire de différence entre le moment où il joue, où il est payé pour jouer, où il est dans un rapport professionnel, et sa propre vie. D'être tout le temps, en permanence, dans cet état de transcendance poétique du quotidien.
Et il
ce que j'apprécie complètement, d'ailleurs.
Et lui finit par gravir l'échelle à cette manière-là, avec cette idée de transcendance, à trouver cette...
En fait,
on
la gravit pas à l'échelle. Elle est là. Elle est juste pour un chemin, mais à mon avis, qui est spirituel. Il n'est pas question. Le seul moment où il gravit l'échelle, où il va tomber d'échelle, c'est en cauchemar.
Vous le dites, c'est toute une réflexion aussi à travers cette pièce par Henri Miller sur la condition humaine, sur ces identités qui nous enferment et celles qui nous animent profondément. Être soi-même, rien que soi-même, c'est inouï, hein, dit Auguste.
Oui, c'est
mais
sûr.
Comment y arriver et comment y parvenir? Et ça, c'est aussi à travers la figure du double qu'on semble pouvoir y arriver, cette figure de l'autre. Écoutez les mots d'Henri Miller, justement. C'était en 1970. Il était interrogé sur son acceptation généreuse du monde et des êtres humains. Pourquoi ne faut-il pas chasser l'ennemi?
On dit, et c'est vrai, que l'ennemi est dedans. C'est pas dehors, n'est-ce pas? Hein? Et j'ai bien compris cela. Et je comprends que moi, je suis aussi l'ennemi, comprenez-vous? Aussi, c'est très important, à mon avis, d'accepter l'autre qui n'est pas avec vous, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi j'aime beaucoup, tellement, Saint-François d'Assise. Parce qu'il acceptait tout. Il acceptait même les athées, voyez-vous. Il a fait mieux que Jésus, à mon avis, dans un sens.
Il y a une question qui m'a été souvent posée par des lecteurs de vos livres, et qui était, est-ce que ces personnages étaient vraiment tels quels?
Oui, mais ils étaient vraiment, oui. Est-ce parfois, naturellement, il y a une déformation, une exagération, mais pour donner la vérité plutôt, n'est-ce pas? Pas de masquer les choses, mais de donner en profondeur. Parce que quand un homme vous parle, il parle, vous comprenez, mais il y a des choses derrière ça, n'est-ce pas, qui sont importantes. Hein? Et je voudrais rendre tout cela.
Est-ce que dans la vie aussi, Denis Lavant, on n'approche jamais autant la vérité par l'exagération, par le burlesque, sur scène, mais aussi dans la vie?
Oui, non, je vais rester scotché sur l'accent de Henri Miller. Je me dis que je pourrais peut-être jouer comme ça. Ça aurait son charme. Oui, à mon avis, le burlesque, justement, ce qui est marrant, c'est qu'on l'aborde dans la vie. C'est remarquable. Il y a énormément de clownerie qui se passe. C'est pour ça que j'adore prendre le métro. Parce que là, on voit un rapprochement de personnages improbables. Et puis, il y a des comportements, des physionomies, effectivement, en dehors de ceux qui sont complètement dans l'autisme moderne, c'est-à-dire complètement à part du monde, avec des casques et branchés sur leur iPod, iPad, truc. Et sinon, on voit des choses merveilleuses. J'ai vu une dame, et elle s'en est même pas rendue compte, mais j'ai trouvé ça formidable l'autre jour, en descendant du métro. Une dame, bon... sans péjoratif, d'un certain âge, un peu enveloppé, et elle a failli louper sa station. Moi, j'étais sur le quai. Elle a failli louper sa station, et elle a jailli brusquement, au moment où les portes se fermaient, du métro, en exécutant une sorte de pas de deux, de petits sauts comme ça, de gazelle, qui était d'une, très très gracieux, quoi. Et en même temps, infiniment comique. Et moi, j'étais plein de tendresse pour ce tableau qu'elle venait de m'offrir. Elle s'en était même pas rendue compte, quoi.
Et ça, vous en nourrissez pour votre jeu?
Moi, je...
De ces postures, des attitudes, de ces gestes des autres?
Absolument. C'est pas que je m'en nourris, je l'apprécie. C'est-à-dire, c'est mon spectacle permanent du monde. Et moi-même, ça me fait beaucoup rire quand il m'arrive d'être sujet à une petite catastrophe de l'ordre du burlesque. Je dis pas, par exemple, une chute sans gravité, quoi, de glisser, hop, de manquer de se casser la figure. Je me souviens qu'une fois, j'ai fait un petit accident, mais vraiment digne d'un burlesque. Malheureusement, j'étais tout seul. Je crois qu'il n'y avait pas de témoin. Je marchais dans une rue, en province, et j'ai été attiré par quelque chose de l'autre côté de la rue, et je me suis pris de plein fouet un panneau.
Mais arrêtez de vous frapper, c'est la troisième fois.
C'est sans danger. Et j'ai pris de plein fouet un panneau, je me suis pas fait mal, mais j'ai vu la scène, rétrospectivement, et j'étais mort de rire, et j'aurais été juste que personne n'ait apprécié ce moment-là, qui était un grand moment de burlesque.
Pour la première fois aussi, à travers ce rôle, vous mêlez, pas pour la première fois dans votre vie de comédien à vous, mais pour un clown, les clowns sont plutôt silencieux. Là, vous mêlez incroyablement la parole au geste, hein, et on sait que pour vous, la gestuelle, le corps est extrêmement engagé dans tout ce que vous faites,
oui.
au théâtre comme au cinéma. De faire basculer le clown des arts circassiens à cette dimension des arts dramatiques, des planches, c'était aussi important de redonner une parole à cette figure du clown.
Et bien sûr, évidemment. C'est-à-dire pour moi, c'est l'occasion de flirter avec cette figure du clown à laquelle j'ai rêvé en fait depuis que je suis petit. Vraiment, enfant, j'ai commencé par cultiver ça, un peu l'acrobatie, les petites choses qui faisaient partie de l'univers du clown. J'ai été inspiré, comme je vous disais tout à l'heure, par Gelsomina dans La Strada, par tout ce qui avait à voir avec le cirque, le mime, le burlesque, la comédia dell'art, et j'ai fait art dramatique, finalement, parce que je voulais aborder le verbe. Mais ceci dit, les clowns ne sont pas forcément que muets. Il y a aussi une époque, il y a plusieurs voies, il y a plusieurs cheminements de clowns. Il y a une époque où il y a des clowns parlants qui sont apparus. Et pour moi, effectivement, c'est l'occasion de pas être clown. Je ne fais jamais un numéro de clown, mais c'est de flirter avec cette image et de la faire retentir. Pour moi, c'est un plaisir de me voir en clown, quoi, de pouvoir me maquiller en clown et de raconter cette figure.
Merci beaucoup, Denis Lavant, d'être passé autour de cette grande table, Le Sourire au pied de l'échelle, d'après un texte de Henri Miller. Et donc à voir au Théâtre de l'Œuvre jusqu'au 17 février. La pièce passera ensuite par d'autres scènes parisiennes, notamment au Lucernaire,
ouais,
et peut-être en
avril,
tournée dans toute la France. Merci beaucoup.
Avec plaisir.